On va commencer tous les deux d'abord. Je vais vous demander tout simplement de me parler de vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, votre histoire.
J'aimerais bien que...
En quelques mots.
Je ne peux pas vous résumer tout, mais j'aimerais bien que... Je ne dirais pas que vous allez m'interroger, mais par exemple, votre nom, votre situation.
Par exemple, dites-moi.
Ça encroche un petit peu la discussion.
Est-ce que vous êtes originaire de la région?
Oui.
Vous êtes né ici précisément?
Précisément.
Et est-ce que vous êtes... vos parents aussi étaient de la région?
Bien sûr,
Jusqu'à où ça remonte?
Aussi, je dirais un siècle.
Et même votre mère est...
Mon père, il est d'origine, mais ma mère, si vous voulez précisément, c'est à Garbosa, c'est à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu.
Mais c'est toujours dans la Wilaya.
Bien sûr, bien
d'accord.
Sûr.
On ne sort pas de la Wilaya.
Voilà. Donc,
et votre père, donc, il est de la ville.
Bien sûr.
Donc lui, quand il est né, c'était Orléansville encore.
Oui, exactement.
C'est ça?
À l'époque coloniale.
Donc voilà, et vous êtes né à Lasnam?
À Lasnam, exactement.
Et maintenant,
des fois, on a tendance à, vu les circonstances et tout, on devient nostalgique. On l'appelle toujours par Orléansville, si ce n'est pas à Lasnam. Hein,
ça change
parce que les circonstances ont voulu, ils ont voulu que le nom de la ville soit changé. Sans l'avis des personnes concernées, ils ont des idées comme ça.
Et en plus, le changement a eu lieu à l'occasion d'un événement quand même assez traumatisant.
Bien sûr. Mais c'était pas le nom qui en quelque sorte qui était un facteur influent, mais seulement parce que le nom, c'est comme si il portait un nom, enfin un sens péjoratif, mm-hmm. quelque sorte.
J'ai entendu cette histoire, oui, c'était...
Parce que si vous voulez, je vous donne juste un petit aperçu, à Lasnam, pour certains, c'est les statues. Mm. Pourquoi les statues? Parce que, si vous voulez, et comme à Lasnam, elle existait avant Jésus-Christ, 350 ans, elle avait un nom romain, après les Romains, c'est-à-dire eux qui ont construit, si vous voulez, cette première région, et les pierres qui restaient, pour certains, c'était ça des statues.
Mm-hmm.
Alors que ça n'a pas de sens. Certes que il y avait des conquêtes religieuses à partir de cette région, mais ça ne veut pas dire qu'elle porte une malédiction ou l'islam qui soit né ici ou ailleurs, c'est une religion, c'est religion. Point, c'est tout. Hein.
Ça n'a rien à voir avec le nom des villes.
Voilà. Ouais.
Bon, donc finalement, ça a été fait comme ça et ça vous paraît un petit peu stupide.
À l'époque, ils ont décidé que le nom est porté préjudice, porté une malédiction, il fallait que ça change.
On ne sait jamais, c'est pas toujours ça.
Voilà, c'est pas évident. Ça hit.
Et donc, vous avez toujours vécu ici ou est-ce que vous avez fait des séjours dans d'autres villes?
Non, uniquement ici. J'ai voyagé un petit peu. Oui. Je suis toujours passionné par la France,
mm-hmm.
par leur mode de vie, hein. Leur façon de penser, leur façon de voir la vie, le savoir. Ces gens-là, comme d'autres, mais il y a une particularité, on a toujours une particularité pour certaines choses.
Vous êtes déjà allé en France?
Plusieurs fois.
Vous êtes allé où? Vous êtes allé dans quelle région?
Lyonnaise. J'étais précisément à Saint-Étienne parce que j'avais un frangin.
Uh-huh.
Il est toujours... maintenant, il est dans la société française. Une deuxième fois, j'ai toujours rêvé. Et le rêve, il est toujours d'actualité. Paris, en l'occurrence, les lieux culturels, à savoir la Sorbonne, le quartier latin... C'est des lieux où pas mal de gens ils ont laissé des traces et c'est un rêve pour chaque personne.
Est-ce que votre profession a un rapport avec cette attirance? Est-ce que c'est par la littérature, savoir que vous
êtes... Je suis venu comme ça.
Vous êtes venu comme ça?
C'est la circonstance
de fait d'être devenu libraire.
Voilà, exactement.
Ou comment ça s'est fait?
Si vous voulez, c'était le sisme. Il y avait à l'époque j'étais adolescent, c'était la période du lycée, il y avait l'événement du séisme, il y avait une rupture, il fallait reprendre les études.
Combien de temps ça a été interrompu?
Pas tout à fait, juste 6 mois, 7 mois, j'ai repris les études pendant une année, mais comme le côté psychologique humain a influé un petit peu parce que il y avait le séisme, il y avait un changement de lieu, c'était pas les mêmes copains, c'est pas les mêmes camarades, c'était une autre ville, donc pour un jeune adolescent, ça marque.
Vous avez été complètement perturbé.
Voilà, je dirais pas perturbé, il y avait un manque de concentration, tout simplement, parce qu'il fallait donner du temps, et nous n'avons pas cette chose. Donc le temps était contre nous.
Et donc vous avez...
Alors le jour, si vous voulez, c'est une... mon père, mon feu père, l'Ahmou, il a décidé que je travaille comme ça pour l'aider, comme toute famille algérienne hein, à l'époque.
Qu'est-ce qu'il faisait lui comme
Lui, il était simple fonctionnaire, comme planton dans une administration algérienne.
Et vous alliez l'aider
Avec le peu d'argent que je pouvais gagner.
L'idée financièrement.
Voilà, c'était comme toute famille algérienne, parce que nous sommes, si vous voulez, le symbole d'une famille nombreuse.
Combien vous étiez?
Au total, 11.
11 enfants.
Filles et garçons. Alors, il a voulu que je travaille. Et moi, ce jour-là, j'avais reçu une invitation parce que je reprends mes études. Et je voulais reprendre mes études. Parce que si vous voulez, c'était pas moi qui a décidé d'interrompre mes études. Il fallait que la décision revienne de moi. Oui. Alors, je voulais pas, si vous voulez, décevoir un petit peu mes parents.
Vous êtes parmi les aînés?
Non. L'avant-dernier, en quelque sorte. Et il y a deux frangins qui sont nés après moi. Alors, ce jour-là, j'ai décidé, peut-être, pourquoi pas, j'ai accepté le travail. Je ne savais même pas si c'était une librairie. Pour moi, c'était un travail comme tous les autres travails. Hein. Et par la suite, en rencontrant des gens comme vous, comme tout le monde, qui aiment le livre, qui aiment la lecture, qui savent, si vous voulez, semer cette bonne graine chez les autres. Et à partir de là, je me suis donné à fond. Si vous voulez, j'étais le plus jeune libraire dans notre société. J'avais à l'époque 17 ou 18 ans.
Vous êtes mis à votre compte rapidement?
Non.
Vous étiez salarié, enfin employé?
À l'époque, on était salarié. Maintenant, les circonstances, ils étaient de mon côté avec la bénédiction de Dieu. Parce que j'ai toujours rêvé de gérer, si vous voulez, ma propre librairie avec mes propres politiques, mes propres moyens. Alhamdoulilah, j'ai réussi.
Ça a marché.
Je ne dirais pas que j'ai tout, mais chaque jour que Dieu fait, c'est une satisfaction morale. Le fait de recevoir des gens, de connaître les livres, de connaître les gens, malgré que, si vous voulez, les circonstances d'aujourd'hui ne permettent pas beaucoup, parce qu'il y a un grand lectorat. Le côté économique, le côté informationnel, parce que maintenant il y a l'internet, il y a beaucoup de supports qui désorientent, si vous voulez, les gens de la lecture du livre. Malgré, il restera toujours le livre, il restera toujours le premier support du savoir.
Même maintenant qu'il y a internet et l'informatique depuis très longtemps, le livre est toujours là quand même.
Bien sûr.
Il partira jamais.
Que ce soit ici ou ailleurs.
Et donc vous, le fait d'être à votre compte, ça vous permet de, comment dire, d'orienter un peu votre réserve selon les goûts.
Oui.
Quel genre de choix vous faites? Vous avez...
J'ai un penchant pour la littérature. J'aime lire la déclination. Je me laisse, si vous voulez, guider par mon instinct d'acquérir tel ou tel livre, telle ou telle poésie, tel ou tel peintre ou tableau,
Qu'est-ce que vous conseillez le plus à vos clients comme, le, comme
la lecture, littérature La lecture.
Et si moi je vous demande, conseillez-moi une, un bon roman.
Ce que j'aime, Gabriel García Márquez.
Oui. Je connais, vous le lisez dans quelle langue?
En français, parce que je ne connais pas l'espagnol.
D'accord.
Je l'ai découvert comme ça.
Salam alaikum.
Un petit plachat. Voilà, on continue. J'aime toujours Gabriel García parce que c'était un auteur qui sort de l'ordinaire.
Oui, tout est fantastique.
D'ailleurs, même le traducteur français, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est une femme. Et ben, elle a bien fait de le traduire.
Ouais.
Parce qu'avant, si vous voulez, pour le lecteur, s'il n'avait pas les possibilités d'acquérir un champ large, qu'il puisse connaître la littérature anglaise, américaine, africaine, l'Amérique latine, on trouve toujours quelqu'un qui pourra vous éblouir par sa façon de penser, par sa façon de voir les valeurs humaines. Un exemple, Gabriel García Márquez.
Vous êtes pour la traduction. Plus de traduction possible pour que...
S'il y a un moyen plus que traduction,
ouais,
pourquoi pas.
Ouais.
On se contente de la traduction. Ouais. Même il y a des auteurs arabes, si vous voulez, c'est ça l'humain. Si on cherche chez l'humain, on trouve des merveilles.
Et comment ça se passe pour l'approvisionnement? Vous avez des difficultés pour vous fournir les bouquins? Comment ça marche?
Je ne dirais pas qu'il y a des difficultés, mais on n'arrive pas encore à avoir une politique du livre. En l'occurrence, la distribution. Les rôles ne sont pas encore définis. C'est-à-dire l'éditeur, le libraire, l'auteur. Le lectorat est dispersé. Si on veut créer, si vous voulez, un lectorat potentiel, il faut qu'on lui prépare le terrain. Mais tout ça, tant qu'il n'y a pas une politique réelle, on ne peut pas aller plus loin. On partage toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes, si vous voulez, la même routine. On ne peut pas y aller plus loin. Mais s'il y a une politique, malgré qu'il y a de bonnes volontés, il paraît qu'il y a un projet, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas été encore discuté au niveau des autorités, mais les volontés, il y en a, les idées sont là, c'était question de temps.
Vous êtes allé au Salon du Livre, à la Foire du Livre d'Alger?
Non, j'ai pas eu le temps.
Mais sinon, c'est un endroit que vous fréquentez?
Bien sûr, soit le Salon du Livre, soit les librairies. Pour moi, c'est toujours un lieu où je me retrouve, je me sens chez moi.
Mm-hmm.
En cherchant le livre, c'est comme si je suis dans une maison, enfin un trésor d'Ali Baba. Alors on est toujours surpris de trouver quelque chose.
Et vous avez des enfants?
Oui.
Est-ce que vous leur avez transmis?
Bien sûr. C'est la moindre des choses, hein, si on aime quelque chose, pas uniquement à vos enfants. Lorsque l'être humain, lorsqu'il aime quelque chose, il essaie de le perfectionner, il essaie de donner de lui-même, le mieux de lui-même, et sans que vous vous rendiez compte, c'est-à-dire l'autre.
Ça a marché, vos enfants sont des grands acteurs.
Avec le temps, on verra.
Quel âge ils ont?
L'aîné, bientôt il aura 6 ans, et le Benjamin, si vous voulez, il a 18 mois.
C'est encore trop petit pour savoir, effectivement.
Voilà, ouais.
Il apprend déjà à lire le grand.
Oui. Il aime les histoires parce que des fois j'arrive fatigué, il faut que je lui raconte. Des fois, même si j'ai pas une histoire de la tête, il faut que je lui invente une histoire. Sa façon à lui d'écouter une histoire.
Oui, donc déjà il associe l'histoire avec le livre et ça va lui faire comprendre. Mais ils sont tout petits alors, quand même. Sinon, si on peut revenir sur vos années de lycée, là, donc finalement, les études se sont interrompues assez tôt pour vous.
Voilà.
Vous étiez en quelle classe?
J'étais en première année secondaire.
Ça fait
quel âge, ça? C'est-à-dire, j'avais 16-17 ans, quelque chose comme ça.
Oui, c'est pas si tôt que ça. Ouais. Et donc, vous habitiez en centre-ville au moment du séisme? Et ensuite?
Exactement, là où il y a celui de culte. Il y a les Hachanam juste à côté.
Ouais.
C'était là. Avant, après l'indépendance, on était, il y a et les Hachanam, s'il y a des gazelles, et les Hachanam en face de la Wilaya, s'il y a des fonctionnaires. Et là où il y a ce lieu de culte, c'était un lieu, c'était un collège.
D'accord. Et vous, vous étiez logé dedans? Vous aviez un logement de fonction dans les HLM à côté?
Voilà.
Par le métier de votre père, c'est ça?
Voilà, oui.
D'accord. Et votre maman, elle travaillait?
Non.
Elle s'occupait de vous, des 11.
Non.
Ouais, c'est travail.
Quand on est algérien.
Ouais. Et les, quand le séisme s'est produit, les grands, ils étaient déjà partis, je suppose, les aînés. Ils n'étaient déjà plus à la maison.
Non, mais
ils étaient mariés ou quelque chose.
J'ai une soeur aînée. Mm-hmm. Il y a le frangin qui est en France. Et la majorité, ils étaient
encore à la maison. D'accord. Et vous vous êtes tous retrouvés, relogés dans les baraques. Et combien de temps ça a pris?
C'était une urgence. Il fallait à tout prix reloger parce que il y avait la période hivernale, donc il ne fallait pas beaucoup perdre beaucoup de temps. Et heureusement, ça s'est passé comme une fraction de seconde. On ne s'en rendait pas compte parce que on était, si vous voulez, pas traumatisé, mais l'avènement du séisme, de ces images-là, le fait que les femmes se recroquevillent entre eux, se réunissent quartier par quartier, donc ça a permis à ce que les gens se relogent sans qu'ils se rendent compte.
D'accord. Donc dans les premiers temps, les premiers jours, vous étiez dans des tentes,
voilà,
des choses comme ça.
Voilà.
Et ensuite, très rapidement, l'armée a attribué...
Avec l'aide des populations, les gens qui sont aidés, les familles ils n'ont pas perdu ni membre de famille, ni leur maison. Ça leur a permis de donner, si vous voulez...
Mais il n'y en avait pas beaucoup qui n'avaient pas perdu de maison. Très très peu. Et est-ce que vous avez constaté un changement de vie sociale après le déplacement?
Bien sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous décrivez ça?
Si vous voulez, c'est comme si c'était un déracinement. Ça arrive à n'importe qui. Même, par exemple, vous. Même un pays développé.
Oui.
Parce que, si vous voulez, il y a un côté qu'on ne peut pas ni acheter ni vendre. Le côté culturel. Le côté, si vous voulez... Il y a des valeurs, si vous voulez, on les acquiert avec le temps, avec l'âge. Et une fois que ces choses-là, ça devienne, si vous voulez, ça fait partie de votre personnalité. Donc, le lieu où vous êtes né, donc l'arbre, que vous êtes grandi à côté, l'immeuble, la personne qui est devant vous, tout ça c'est des images. Tout ça, ça, si vous voulez, c'est ancré dans l'esprit de l'être humain, là où il va. Il emporte ça avec lui.
Ça sert de cadre.
Voilà. Lorsqu'il retourne, le fait de goûter à ses valeurs, à ses lieux, donc ça permet à la personne de revivre, si vous voulez, une deuxième vie. Mais prenons le cas de quelqu'un qui a subi, si vous voulez, une rupture. Par exemple, le cas de séisme. Si, par exemple, les gens, si vous voulez, si ces gens-là, on peut retourner dans le lieu d'habitation, si vous voulez, les ruelles, elles restent toujours les mêmes. Il n'y aura pas, si vous voulez, un changement, quelque chose comme ça, mais ça sera passager. Mais une rupture où tout ça sera changé, c'est-à-dire les gens qui viennent après, ça ne leur dit rien parce qu'ils sont nés.
Ça n'existe plus déjà. Bah,
mais ceux qui ont né avec ces ruelles, avec ces odeurs, avec ces adresses, avec ces repères, ils deviennent, c'est vrai, avec le temps, des nostalgiques. C'est comme si la personne se heurte à un miroir et ce miroir ne reflète pas ce qu'il a dans la tête. C'est une autre image, donc il n'arrive pas à reconnaître.